Le monde au féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
La Guinéenne Bintou Keïta a été nommée émissaire de l'ONU en République démocratique du Congo. Elle était sous-secrétaire générale de l'ONU pour l'Afrique après avoir été adjointe aux opérations de maintien de la paix. Elle succède en février 2021 à l'Algérienne Leïla Zerougui qui aura fait 3 ans de mission dans ce pays. La mission de paix MONUSCO compte environ 15 000 casques bleus avec un budget annuel atteignant plus $1 milliard. Son mandat a été renouvelé en décembre 2020 par le Conseil de sécurité pour 1 an avec une amorce prudente de désengagement étalée sur plusieurs années sans établissement de fin d'échéance. En France, Delphine Damarzit, numéro 2 de la banque en ligne Orange Bank, va prendre la tête de la Bourse de Paris le 15 mars 2021, devenant la première femme à piloter la place parisienne. Cette spécialiste du développement des marchés des capitaux et de la réglementation financière européenne succède à Anthony Attia, nommé à un autre poste du groupe Euronext. Diplômée de l'ENA, Amarzit a notamment été inspectrice générale des finances, puis à la direction du Trésor. Les 3 nommés au prix des droits de l'homme Vaclav Havel du Conseil de l'Europe sont des femmes impliquées dans la promotion des droits des femmes. Il s'agit de la militante saoudienne Loujain Al-Atloul, emprisonnée depuis 2018 et condamnée en décembre à 5 ans et 8 mois de prison. Elle avait été arrêtée avec d'autres militantes peu avant la levée de l'interdiction de conduire faite aux Saoudiennes, une réforme pour laquelle ces femmes militaient. Sont également présélectionnées des nonnes bouddhistes qui promeuvent l'égalité des genres, la durabilité environnementale et la tolérance interculturelle au Népal. La militante de RDC Julienne Lusenge pourrait également recevoir le prix pour avoir obtenu la condamnation de centaines d'auteurs de violences contre les femmes. La lauréate doit être désignée le 19 avril 2021. La mairie de Séoul en Corée du Sud s'est retrouvée sous le feu des critiques après avoir conseillé aux femmes enceintes de préparer des repas à l'avance à leurs époux et de s'assurer qu'ils ont suffisamment de sous-vêtements propres avant qu'elles aillent accoucher à l'hôpital. L'article conseillait aux femmes enceintes de garder une tenue de petite taille qu'elles souhaiteraient porter après l'accouchement afin de les motiver à ne pas trop manger. Les tâches ménagères vous aideront à maintenir votre poids, soulignait le site web d'information sur la grossesse. À l'approche de l'accouchement, les femmes enceintes devraient préparer des repas en avance pour leurs époux, indiquait le site, et d'ajouter qu'il fallait qu'elles s'assurent qu'il y a assez de papier toilette, dentifrice et savon à la maison avant d'aller accoucher. Les conseils mis en ligne ont été retirés après avoir provoqué un tollé.
Parole de femme.
Au Sénégal, la rappeuse Aminata Gueye, ou Mina la Voilée, s'est fait une place sur la scène musicale en consacrant son art à des thèmes comme l'autonomisation des femmes, les mutilations génitales féminines ou le mariage forcé. Son choix n'a pas toujours fait l'unanimité, mais grâce à l'appui du collectif Genji Hip Hop, elle arrive à lever le voile sur l'inégalité entre les genres tout en donnant un élan à sa carrière. On la découvre avec Blanche Sanou.
Faire du rap dans un pays à majorité musulmane n'a pas été une mince affaire pour Mina la Voilée, qui a dû se battre contre les préjugés et surtout les commentaires dévalorisants de ses critiques sur les réseaux sociaux. Dans son combat, le soutien du collectif Genji Hip Hop lui a été très bénéfique.
Ça m'a carrément aidé parce que j'ai vu d'autres femmes rappeuses comme moi, d'autres réalités, d'autres problèmes, parce que elles aussi, toutes ces femmes ont leur propre histoire. On le propre début et tout, alors ça m'a carrément inspiré. Et donc Genji, j'ai eu à connaître les photographes, les journalistes, parce que il y a pas que des rappeuses dans Genji, il y a des journalistes, des photographes, des cinéastes, il y a pas mal de monde là-bas.
Ça tourne.
Le collectif Genji a été cofondé par Ina Thiam, une photographe qui est également réalisatrice de films. Composé d'environ 70 femmes, l'objectif du groupe est d'amener les femmes rappeurs et artistes à se rencontrer et à partager leur expérience.
Ce qui me passionne, déjà, c'est qu'on est dans un pays où il y a beaucoup de non-dits et il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas à haute voix et qui sont souvent les causes de tous nos problèmes, des femmes surtout. Et donc, avec l'image, je peux dire ces choses-là, avec mes images, sans les mots.
À travers ces photographies, Ina Thiam aborde également les questions sociales, l'environnement, la pollution. Son collectif organise un festival annuel de hip-hop, mais propose également des cours d'art dans les prisons pour femmes et des ateliers sur la sexualité dans les zones rurales du Sénégal.
Au Bénin, de nombreux jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat face au chômage et au sous-emploi. L'Organisation internationale de la francophonie encourage notamment les femmes en ce sens à travers un fonds spécial. Un reportage de Ginette Fleuradandé à Cotonou.
60% de la population béninoise est constituée de jeunes et c'est cette frange qui subit de plein fouet les affres du chômage et du sous-emploi. Le nombre de jeunes au chômage est de plus en plus grandissant avec pour corollaire la croissance de l'insécurité dans les grandes villes, notamment à Cotonou. Selon les estimations de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi sur le marché de l'emploi, on dénombre plus de 2 750 000 jeunes au chômage et le nombre de dossiers de candidature au dernier concours d'entrée dans la fonction publique est évocateur. Environ 7000 candidats pour 25 postes à pourvoir. Certains jeunes comprennent déjà l'importance de sortir de l'université avec un plan de secours.
C'est surtout employé, on ne peut pas attendre l'État. L'État ne veut pas réagir.
Pour ne pas tomber dans le chômage. D'ici que je suis en train d'étudier, je dois au moins faire quelque chose pour le moment, même si c'est vendre quelque chose en attendant. Je vais faire ça d'abord.
Parti de rien et n'avoir que la soif de réussir à donner du travail à d'autres jeunes. Mabel Adekambi est l'une de ces béninoises béninoises qui ont su s'imposer dans le monde de l'auto-entrepreneuriat. Elle est la promotrice d'une marque de liqueur qui aujourd'hui est sur le marché. The King of Soto, c'est le choix qui s'est imposé à elle après ses études en France.
Quand on arrive au Bénin, on se rend compte que tout est à faire et je me suis lancée ainsi dans l'entrepreneuriat. Le bouche à oreille a tellement bien fonctionné que je suis surprise qu'un produit à la base fait pour être dégusté à la maison entre amis se transforme en une entreprise aujourd'hui. Et oui, on arrive à payer des salaires avec ça, on arrive à créer de l'emploi et derrière tout ça, on arrive à assurer une vente à des producteurs de solabilles qui sont à l'intérieur du pays.
L'entrepreneuriat féminin subit aussi de plein fouet les effets de la pandémie du coronavirus. La francophonie se porte à leur côté à travers le fonds de solidarité dénommé La Francophonie avec elle, créé par l'institution pour venir en aide aux femmes francophones d'Afrique et des Caraïbes. Louise Mouchikiwabo, secrétaire générale de l'OIF.
Nous, la francophonie, on est une organisation budgétairement très modeste, mais nous voulons rester tout près de nos populations. Nous voulons accompagner et nous avons aussi l'ambition, en tout cas pour ce fonds en particulier, d'aller vers des ressources beaucoup plus importantes à partir de l'édition 2021.
Le fonds La Francophonie avec elle ambitionne d'aider les femmes en situation de vulnérabilité et de pouvoir leur offrir un espace d'accès à la santé, à l'éducation et au bien-être. Ce fonds est une aubaine pour les femmes entrepreneurs du Bénin qui, dans leur majorité, vivent difficilement ce temps de crise sanitaire. De Cotonou, Ginette Le Adam, pour VOA Afrique.
Le pape François a inscrit officiellement le 11 janvier 2021 dans le droit de l'Église catholique des fonctions déjà occupées par des femmes laïques lors de services religieux. Il s'agit du ministère de la parole qui consiste à lire l'évangile et du ministère de l'acolytat, une assistance à l'autel. Dans sa version de 1983, le droit spécifiait que ces deux mandats pouvaient être confiés à des laïcs hommes, une référence désormais rayée. Le pape reste toutefois réticent à toute forme d'ordination des femmes, comme leur accès au diaconat. L'idée soutenue par de nombreux évêques d'Amérique latine et notamment des prélats progressistes en Allemagne.
Si je ne pouvais.
Au Cameroun, les écoles inclusives ouvrent de plus en plus leurs portes aux enfants à besoins spécifiques. À Yaoundé, trois établissements assurent l'éducation et la formation des jeunes déficients visuels, autistes ou ayant une infirmité motrice cérébrale. Une telle éducation est encore onéreuse et la formation du personnel enseignant et la disponibilité du matériel adéquat sont aussi des défis à relever. Un reportage d'Emmanuel Juntap à Yaoundé.
C'est la récréation pour les élèves de l'école primaire inclusive de l'association Pro Handicam au quartier Mimbouman à Yaoundé. Une école qui ouvre ses portes aux élèves présentant certains handicaps. Ils sont regroupés dans quatre salles de classe, dites spéciales.
Ça nécessite beaucoup de temps, puisque même avec les enfants dits normaux, c'est pas facile. Hein.
20 élèves sont inscrits au niveau 4 de la salle de classe spécialisée. Monique Ngohendie est leur enseignante.
J'ai les IMC ici, comme elle, infirme motrice cérébrale. J'ai les trisomies, j'ai les autistes, j'ai les retardés légers. Donc l'enseignement ici est individuel.
L'an dernier, certains élèves ont décroché le diplôme officiel, sanctionnant la fin des études du premier cycle. Pierre Tchofak, directeur de l'école primaire inclusive de Pro Handicam.
Nous avons eu 4 non-voyants qui ont réussi au CEP et 3 autistes.
À Yaoundé, c'est dans l'enceinte du club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun que se trouve l'école maternelle primaire inclusive Lubraï. Le site abrite aussi les locaux du Centre national de l'inclusion. Coco Bertin est le directeur général.
Dans ce bâtiment, on réfléchit sur qu'est-ce que nous pouvons faire pour que l'éducation inclusive soit une réalité. On a une classe qui forme les déficients visuels. On a une imprimerie braille, un centre d'édition et de transcription braille qui a une grande capacité. Depuis 2013, au Cégerc, nous avons ouvert l'école inclusive à tous les types de handicap.
Dans une salle du centre, 6 élèves s'entretiennent avec le corps enseignant. Parmi eux, le jeune Caleb, qui a des problèmes visuels depuis son enfance. Il a quitté Bertois, à plus de 335 km de Yaoundé, pour intégrer le Centre national de l'inclusion à Yaoundé.
Je ne maîtrise pas encore le bright et je suis en classe de 3e. Je suis là pour apprendre mon bright pour que je puisse préparer mon BPC cette année.
Trois principales structures éducatives inclusives fonctionnelle à Yaoundé bénéficie du partenariat de la CBM, une organisation internationale chrétienne d'aide aux personnes souffrant de handicap. Dans le cadre de ce partenariat, Suzanne Gonguidjol-Pomme est agent de développement inclusif à base communautaire dans le 6e arrondissement à Yaoundé.
Beaucoup d'enfants vivant avec un handicap sont gardés dans les maisons. Nous allons d'abord les recenser dans les familles. Ensuite, nous essayons de rassurer les parents de ce que l'enfant ne doit pas seulement rester à la maison, mais il doit aller au contact des autres. Nous accompagnons ou nous orientons vers les établissements adaptés à recevoir ces enfants-là.
Le coût annuel de la scolarité des enfants à besoins spécifiques est de $360 environ dans le centre spécialisé de la capitale. Dans les écoles de formation des enseignants, l'État camerounais a introduit des modules sur ce type d'élèves, parfois victimes de la marginalisation. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Le monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
Au Sénégal, les jeunes se tournent de plus en plus vers le métier de livreur. Les artères de Dakar grouillent de motos de livraison conduites par des jeunes, communément appelés tchak-tchak, qui exercent ce métier pour subvenir à leurs besoins. Une activité qui attire aussi des diplômés pour qui la livraison paie mieux que le travail de bureau. Un reportage de Sedina Abagay à Dakar.
Assis sur sa moto X-Max, casque bien vissé sur la tête, Baboulaye Gassama Diafra fait partie des nombreux jeunes qui parcourent les rues de la capitale sénégalaise et de sa banlieue pour livrer des colis. Pour lui, l'entrée dans ce métier est un choix qui lui offre beaucoup de liberté.
J'avais beaucoup de temps libre, un scooter, et bon, mes cousins m'en ont parlé, je me suis lancé, et depuis, voilà. Par exemple, si tu livres pour toi-même, tu es libre de choisir quand commencer, quand terminer, tu peux choisir la mission que tu veux, tu vois. En gros, tu es indépendant, tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a personne qui va te dire tu vas passer par-ci ou par-là.
Pour d'autres, c'est un choix par défaut qui a ses avantages. Ousseynou Diallo Diaz est un ancien étudiant du département de philosophie de l'Université de Dakar. Après s'être essayé à plusieurs métiers, parmi lesquels celui de conseiller commercial dans les centres d'appel, il a décidé de se lancer dans la livraison pour mieux gagner sa vie.
Tantôt tu peux te retrouver avec 300 000 durant le mois, tantôt tu te retrouves avec moins de ça, beaucoup moins. Tantôt aussi tu peux te retrouver avec plus de 300 000, ça dépend. Donc puisque ça varie, alors que dans les entreprises, c'est un salaire fixe parfois. Il y a des primes et tout. Par exemple, les centres d'appel, d'habitude, c'est des salaires fixes de 80 000 à 100 000. Il y a des primes AT, quelque chose comme ça. Donc, tu peux pas dépasser les 200 000. Alors que pour la livraison, tu peux facilement te retrouver avec 300 000.
Conscient des nombreuses opportunités qu'offre le secteur de la livraison, Geoffroy Dacosta a lui choisi de lancer une entreprise spécialisée dans le domaine avec une organisation adaptée.
On a pris les devants en mettant en place des mesures qui permettent aujourd'hui que nos livreurs soient identifiés, qu'ils puissent déjà jouir d'une certaine autonomie pour ce qui est de leur travail, mais aussi il y a des contraintes liées à l'exploitation. Pour s'organiser, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un certain nombre de livreurs, qu'on met en rapport avec certaines entreprises, et le plus facile, c'est que tous nos clients payent au mois. Donc, ce qui fait que nos livreurs ne se baladent pas avec du cash, sauf par exception. Donc, aujourd'hui, ils sont tous sous contrat.
Du côté des clients, les avantages sont également très nombreux. Aminata Boy trouve que les services de livraison offrent un gain de temps tout en assurant la sécurité du colis.
Ouais, au fait, c'est plus facile de se faire livrer que de laisser
les tâches à la maison, se déplacer pour chercher des trucs qu'on peut venir jusque chez vous et vous les donner. C'est plus facile, je pense. Il y a de la sécurité vu que les gens te rassurent avant même de venir et qu'une fois chez toi, tu trouves que vraiment ça, c'est le produit.
Les livreurs indépendants et les services de livraison sont aujourd'hui de plus en plus nombreux à cause notamment du développement rapide de la vente en ligne. Une tendance qui permet à ces jeunes, communément appelés tchak-tchak, d'avoir des revenus stables qui leur permettent de subvenir à leurs besoins. Seul bémol, les nombreux accidents qui impliquent ces livreurs qui sont dans un secteur qui n'est toujours pas réglementé. À Dakar, Seydina Bagay pour VOA Afrique.
Soit les jeunes ou les femmes, croyez en vos rêves, rien n'est impossible, ça va se réaliser. Et inspirons-nous, créons notre histoire, l'Afrique que nous voulons voir demain.
Sidi Ould Amine a fui le Mali pour se réfugier au Burkina Faso lorsque le conflit entre les rebelles et les forces gouvernementales a éclaté dans son pays en 2012. Mais en 2017, ce jeune réfugié a décidé de rentrer chez lui pour s'installer à Mopti et reconstruire sa vie. Avec l'aide d'un programme du HCR, il a ouvert un atelier de couture. Blanche Sanou nous emmène à sa rencontre.
Sidi est revenu chez lui pour mettre à profit les précieuses compétences acquises dans un camp de réfugiés au Burkina Faso où il a reçu une formation professionnelle. Le programme est géré par le HCR avec le soutien de l'Union européenne pour aider les réfugiés à devenir autonomes.
Le jour qu'ils ont dit qu'il y a coupe couture, moi j'ai dit que c'est ce que je préfère. Parce qu'à la maison, il y a les habits des enfants, ils sont déchirés.
Aujourd'hui, son atelier de couture à Mopti lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Sidi forme également des jeunes issus de communautés défavorisées en leur transmettant des compétences de tailleur.
Donc ça aussi, c'est devenu une petite école aussi, vraiment. Ça empêche les enfants d'aller ailleurs, ça empêche les enfants d'être vagabonds.
En février 2020, plus de 130 000 réfugiés avaient fui le Mali selon le HCR. Les personnes déplacées sont accueillies au Niger, en Mauritanie et au Burkina Faso, des pays qui sont également aux prises avec l'insécurité, avec des niveaux de déplacement édifiants. Malgré la menace persistante, quelques 110 000 Maliens ont choisi de rentrer au fil du temps dans des zones qu'ils estimaient suffisamment sûres.
Au Pakistan, un tribunal de la province du Pendjab a jugé illégal le test de virginité sur les victimes de viol. La haute cour de Lahore a estimé le 4 janvier 2021 que ces tests constituent une agression contre la dignité des femmes et sont donc contraires au droit à la dignité. Un dossier similaire est en instance à la cour de Sindh. Les défenseurs des droits humains espèrent que le jugement de Lahore va établir un précédent pour une interdiction nationale. En Inde voisine, ce test est interdit depuis 2013 et le Bangladesh a suivi en 2018. L'Organisation mondiale de la santé juge ces examens comme une violation des droits humains. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.